Dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment le stock de robots a pu changer dans les différents pays. Pour ça, les données que je mobilise ici sont les données de l'International Federation of Robots, et ce sont des données qui indiquent le nombre de robots par million d'heures travaillées dans les différents pays. Ces données commencent au milieu des années 90 et nous les avons, avec deux co-auteurs qui sont ici indiqués, complétés pour démarrer nos séries depuis le début des années 60. Alors, ce que l'on voit, c'est dans quasiment tous les pays une augmentation très très forte du nombre de robots par million d'heures travaillées, ici au niveau de l'ensemble de l'économie, avec une évolution un petit peu particulière du Japon, qui était parti très vite en début de période et qui connaît une baisse de ce nombre de robots par million d'heures travaillées sur les 2 dernières décennies. Ces données statistiques sont celles qui sont utilisées par tout le monde pour les comparaisons internationales. Il faut bien avoir en tête, évidemment, qu'elles souffrent d'inévitables fragilités, mais on n'a que ça pour de telles comparaisons. Alors, vous voyez que l'Allemagne était un pays qui partait assez loin derrière le Japon et qu'il a largement rattrapé du fait de la baisse observée au Japon de cette robotisation ainsi calculée sur les 2 dernières décennies. Dans le slide suivant, ce que je montre, c'est le niveau de robotisation, toujours avec le même indicateur, un nombre de robots par million d'heures travaillées, pour une trentaine de pays avancés sur la seule année 2019. Et ce que ça permet de voir, c'est qu'il y a un grand contraste dans le niveau de robotisation sur la dernière année entre les différents pays ici considérés. Le pays dans lequel la robotisation est la plus forte, c'est l'Allemagne. Et puis le pays dans lequel, le pays le plus avancé, je dirais, parmi les grands pays développés, pays dans lequel cette robotisation est la plus faible, serait le Royaume-Uni. C'est la troisième barre en partant de la gauche. Et vous voyez que la France n'est pas très vaillante en termes de robotisation comparée à l'Allemagne et à d'autres pays, comme par exemple encore le Japon. Donc, premier constat, augmentation de la robotisation dans quasiment tous les pays industrialisés. Et puis, deuxième constat, un niveau de robotisation très très diversifié entre les différents pays. Alors, quand on s'interroge sur les effets de la robotisation sur l'emploi, on s'interroge en fait sur les effets de la robotisation sur la productivité. Et les canaux par lesquels la robotisation peut influencer la productivité sont ici évoqués. Il y a d'abord un effet qu'on appelle de capital deepening, c'est-à-dire d'alourdissement des techniques de production, du volume de capital par emploi dans les secteurs utilisateurs de robots. Et puis, par ailleurs, il y a un effet de productivité globale des facteurs et dans les secteurs utilisateurs et dans les secteurs producteurs de robots. Alors, je ne vais pas aller dans le détail de ces canaux, qui sont d'ailleurs pas complètement indépendants l'un de l'autre. Néanmoins, évidemment, il peut être intéressant d'essayer autant que faire se peut de les distinguer afin de caractériser l'effet des robots sur la productivité et donc indirectement sur l'emploi. Alors, c'est ce que nous avons essayé de faire très très récemment avec Vincenzo Spiezia et Aurélien De Villard. Et c'est ce que vous voyez ici pour les États-Unis sur différentes sous-périodes. Vous voyez dans la ligne 9 et dans la ligne 13 l'effet de la robotisation par les deux canaux que j'ai évoqués précédemment. Sur la ligne 9, l'effet de capital deepening, et sur la ligne 13, l'effet via l'augmentation de la productivité globale des facteurs. Alors, au niveau des États-Unis, vous voyez que l'effet n'est pas massif, puisque au point haut, c'est-à-dire pendant la décennie ici 2005-2019, l'effet de la robotisation sur la productivité du travail aurait, par ces deux canaux réunis, été de 0,14% par an en moyenne. Donc quelque chose d'assez faible. C'est le point que je voulais faire ressortir. Au niveau de la zone euro, c'est le slide suivant. L'effet est un petit peu plus fort. Pourquoi un petit peu plus fort? Bah, parce que dans plusieurs pays de la zone euro, dont l'Allemagne en particulier, la robotisation est plus avancée qu'aux États-Unis. Et vous voyez que pendant la période où cet effet aurait été le plus fort, c'est-à-dire ici la décennie 95-2005, on en est à un effet de 0,32 par an sur cette décennie. Et après, on voit un petit déclin de l'effet de la robotisation sur la productivité. Alors, tout de suite, quand même, il peut être intéressant de regarder ce qui s'est passé dans le pays où la robotisation a eu l'effet le plus important, à savoir l'Allemagne, donc qui est le pays dans lequel la robotisation est la plus forte, la plus avancée. Et en Allemagne, c'est ce qui apparaît sur le slide suivant, vous voyez que l'effet maximum est de 0,7% de gain de productivité via la robotisation dans la décennie 95-2005. Alors c'est un effet quand même assez substantiel, assez considérable, mais c'est un effet qui est en baisse ensuite sur la période récente, malgré l'augmentation de la robotisation. Il est en baisse, comme il était en baisse au niveau de l'ensemble de la zone euro. Et puis, un petit coup d'œil quand même sur notre pays, sur la France. En France, l'effet de la robotisation aurait été à son point maximum de 0,46% par an sur la dernière période, ici 2005-2019. Alors, les enseignements qu'on peut en tirer, c'est que, on le voit, la robotisation a des effets qui ne sont pas négligeables sur la productivité, mais ce ne sont pas néanmoins des effets massifs sur la productivité. Et dans le pays dans lequel la robotisation est la plus avancée, eh bien, on a vu que sur la décennie où ces effets sont les plus forts, c'est de 0,7% par an. Ce n'est pas négligeable, bien entendu, mais ça reste quand même quelque chose qui ne devrait pas effrayer, d'autant plus, et c'est le graphique suivant, que les craintes des effets de la robotisation sur la productivité et donc indirectement sur l'emploi émergent à une période où les gains de productivité sont très faibles. Ce qui est représenté sur ce graphique, c'est le taux de croissance lissé pour éviter d'avoir des fluctuations courtes qui embrouillent le diagnostic. Les taux de croissance de la productivité horaire du travail dans les quatre principales zones économiques, les États-Unis, la zone euro, le Royaume-Uni et le Japon, depuis 1890 jusqu'en 2018. Donc, vous voyez les différentes vagues, l'épuisement de la première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, et puis une petite vaguelette pour les États-Unis qui va des années 90 jusqu'au milieu des années 2000. Mais le point sur lequel je veux insister, puisque je n'ai pas le temps de commenter trop longuement ce graphique, c'est que de nos jours, les gains de productivité sont les plus faibles qu'on ait observés sur cette période, et même j'aurais pu représenter cette courbe sur une période un petit peu plus longue, en rajoutant 4 à 5 décennies. On voit que les gains de productivité sont les plus faibles observés, en dehors bien sûr des périodes de guerre mondiale. Donc cette inquiétude d'une évaporation de l'emploi du fait des gains de productivité liés au changement technologique, dont la robotisation, est un peu paradoxal à une époque où ces gains de productivité sont au niveau macroéconomique les plus faibles jamais observés sur un siècle et demi, en dehors, encore une fois, des périodes de conflits mondiaux. Alors, dans le slide suivant, ce que je rappelle, c'est que cette anxiété des effets du progrès technique, des changements technologiques, sur l'emploi, cette anxiété n'est pas nouvelle. On l'observe toujours à chaque révolution technologique. C'est quelque chose qui a été bien caractérisé par des historiens économistes, comme par exemple Joël Mokyr. Et évidemment, cette anxiété, c'est l'idée, le progrès technique et les machines vont remplacer des hommes. Et remplaçant des hommes, ces hommes vont se retrouver sans emploi au bord de la route, ce qui va être évidemment très, très, très dur pour des économistes dès le XVIIIe siècle avaient déjà analysé cette crainte. Cette crainte avait suscité d'ailleurs des mouvements sociaux qui ont été appelés par exemple ludisme ou néoludisme, qui correspondaient à la destruction de machines dans l'industrie textile au moment de la première révolution industrielle, du fait des craintes justement que ces machines, que ces métiers à filet se substituent aux hommes, aux travailleurs. Et John Maynard Keynes lui-même, dans les leçons à ses petits-enfants en 1930, décrivait ce phénomène en disant « Attention, on peut avoir dans les pays les plus avancés des destructions massives d'emplois et la seule bonne réponse à ça serait de faire financer une réduction du temps de travail par ces destructions massives d'emplois et préconiser avec un petit peu d'humour le passage progressif sur le siècle suivant, donc à l'horizon de 2030, maintenant c'est plus très éloigné, le passage à la semaine de 15 heures. Joël Mokyr, l'historien économiste que j'évoquais tout à l'heure, a fait remarquer que cette anxiété d'évaporation de l'emploi liée au progrès technique a toujours été démentie par les faits. A toujours été démentie par les faits, pourquoi ? Bien parce que les gains de productivité ont toujours été mobilisés pour financer deux choses. D'une part, l'augmentation du niveau de vie de chacun, et puis, d'autre part, l'augmentation économique du niveau de vie de chacun, et puis, d'autre part, une amélioration du niveau de vie par l'augmentation du temps de loisir, par la diminution du temps travaillé. Il faut bien voir qu'à l'horizon de un siècle, 120 ans environ, la durée moyenne de travail des personnes en emploi a été divisée par deux dans nos pays. Néanmoins, le changement technique, et c'est un point qu'il est important de garder en tête, détruit des emplois, la croissance en crée d'autres. Ça signifie qu'il faut gérer des reversements, pour reprendre l'expression d'Alfred Sauvy, des reversements, c'est-à-dire le fait que des personnes vont perdre leur emploi, parfois de façon un peu brutale et rapide, et doivent être mobilisés assez rapidement dans d'autres activités. Alfred Sauvy donnait à cet égard l'exemple des porteurs d'eau. Il y avait à Paris, à la fin du 19e siècle, 20 000 porteurs d'eau qui montaient à chaque étage des maisons, eh bien dans des seaux, l'eau pour tous les usages qu'on peut en faire. Vous imaginez d'ailleurs les conditions sanitaires, puisque cette dimension est importante en ce moment, les conditions sanitaires dans lesquelles ces livraisons d'eau pouvaient être faites. Eh bien, les porteurs d'eau ont été remplacés par des canalisations et des réservoirs d'eau pour le bonheur de chacun, et sans que ça entraîne au niveau en net, au niveau macroéconomique, de destruction d'emplois. Il y a eu un reversement vers d'autres activités qui, elles, se sont développées. On pourrait évoquer aussi à cet égard, pour faire un peu de poésie, le poinçonneur des lilas chanté par Gainsbourg. Alors, quels sont ces emplois qui peuvent émerger ? Ça, c'est un point qu'il est très difficile d'anticiper. En général, on se plante toujours quand on dit « telle activité, à coup sûr, va se substituer par son développement à telle activité en disparition. » Et Joël Mokyr donne de nombreux exemples aussi d'erreurs qui ont pu être faites dans ce domaine. Alors, le dernier graphique que je voudrais montrer illustre le fait que les gains de productivité ne sont pas l'ennemi de l'emploi. Sur ce graphique, je me situe sur la période très longue et je compare sur l'axe des abscisses le changement du rythme annuel moyen de gains de productivité entre 1950 à 1975 d'une part et 1975 à 2019 d'autre part. Donc vous voyez que la croissance de la productivité a baissé dans tous les pays ici considérés, sauf le Chili, au passage, enfin à partir du premier choc pétrolier, quand on compare la période d'avant avec la période d'après jusqu'à maintenant. Et puis sur l'axe des ordonnées, sur l'axe vertical, je fais la même chose, mais pour l'emploi. Et je regarde comment l'emploi, le taux de croissance de l'emploi a changé en moyenne entre ces deux sous-périodes très longues dans les différents pays développés, ici considérés. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a une quasi-absence de relation entre, sur très longue période, les inflexions de la productivité représentées sur l'axe des abscisses et les inflexions de la croissance de l'emploi représentées sur l'axe des ordonnées. Donc, encore une fois, ce graphique vraiment très, très simpliste veut simplement illustrer le fait que les gains de productivité, les différents comportements de la productivité, les différentes inflexions tendancielles de la productivité dans les pays avancés n'ont pas eu de répercussions sur l'emploi et sur les évolutions tendancielles de l'emploi dans ces mêmes pays ici considérés. Encore une fois, la productivité n'est pas l'ennemi de l'emploi, à moyen et long terme.